Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Perles d'histoire.
Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire.
Présenté par Gabriel Massé.
Bonjour à tous. Dans l'un des derniers épisodes, vous avez pu découvrir le récit de la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Eh bien, j'aimerais donner à cet épisode une suite. Je m'apprête à vous raconter une histoire incroyable, et pourtant il faut la croire puisque tout est vrai. Après l'armistice, les vainqueurs, donc les Français, les Britanniques, les Américains et les Belges, considèrent l'Allemagne comme seule responsable du conflit. Elle doit payer les réparations. Le défi est aussi d'empêcher que la guerre ne reprenne. L'armée allemande est alors réduite à 100 000 hommes et ses canons et ses mitrailleuses sont récupérés par les alliés.
C'est bien normal.
Mais ce n'est pas tout. La Rhénanie, une région frontalière de la France, est démilitarisée et occupée pour une durée de 5 à 15 ans. L'objectif est d'anéantir toute menace. La rive gauche du Rhin et une partie de la rive droite sont donc découpées en zones d'occupation. Les Britanniques prennent Cologne, les Français Mayence et les Américains Coblenz. Ils doivent gérer la ville et ses alentours dans un rayon de 30 km. Quand cette décision est prise, les officiers alliés pensaient que les zones se chevaucheraient, mais en réalité, pas tout à fait. Henri Mordac, commandant du 30e corps de l'armée d'occupation, écrit « Nous avions fait la terrible erreur de laisser quelques acres de terre dans la zone neutre ». L'erreur de mesure a créé un étroit corridor non occupé. Il recouvre plusieurs villages de vignerons et deux petites villes, Lorch et Kaub. Les puissances occupantes ne se posent pas de questions. Elles appliquent le plan et elles barrent les routes aux extrémités de leur tête de pont. Elles isolent ce territoire et plus de 17 000 personnes se retrouvent alors coupées du monde. Remarquez une sacrée coïncidence pour un pays de vignobles, ce territoire isolé a la forme d'un goulot de bouteille. Lorsqu'ils comprennent la situation, les habitants, stupéfaits, proclament leur indépendance. Le 10 janvier 1919, c'est la naissance de l'État libre du goulot, ou en allemand
Freistaat Flaschenhals.
Le nom est bien choisi, l'anecdote est savoureuse, mais dans les faits, c'est d'abord la nécessité qui les a poussés à prendre cette décision. Alors que la monnaie commençait à se faire rare, le bourgmestre de Lorch, Edmund Anton Pnischek, décide que l'État libre va frapper sa propre monnaie, et puis émettre ses passeports, imprimer des timbres et organiser son système postal. L'État libre du goulot devient presque une vraie micronation. Les choses sont officialisées par un télégramme de Pnischek à la Commission allemande d'armistice. Nous souhaitons que, entre Bonn et Mayence, subsiste une bande de terre, le long du Rhin allemand, libre de toute influence gauloise. Son insolence va agacer les autorités françaises, et l'état libre du goulot est complètement isolé, au point que plus aucun bateau ni aucun train ne s'y arrête. Les habitants sont donc obligés de faire de la contrebande en passant par des chemins de montagne, ils échangent du vin et des liqueurs contre des denrées alimentaires et du charbon. La nuit, des marchandises sont aussi transportées discrètement sur le Rhin, dans le sens du courant. Les Français ripostent alors en installant des projecteurs. En 1923, Pnischek et son gouvernement commencent à envisager l'envoi d'ambassadeurs dans les capitales étrangères, à commencer par Berlin.
Oui, bien sûr que c'est sérieux.
Mais comme l'Allemagne prend du retard dans le paiement des réparations, les armées françaises et belges envahissent toute la Ruhr. Le 25 février, un régiment de spahis marocains pénètre dans l'Orch. Pnischek est arrêté. Il est condamné à 2 mois de prison et 50 000 marques d'amende. Après 4 ans d'existence, l'État libre du goulot est aboli. Aujourd'hui, ce territoire fait partie de la magnifique vallée du Rhin, qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le plus grand bonheur des touristes, les deux villes de Lorch et de Kaub continuent de perpétuer la mémoire du Freistaat Flaschenhals. Si un jour vous avez l'occasion de vous y arrêter, vous en connaissez désormais l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager s'il vous a intéressé et surtout à vous abonner au podcast Perles d'Histoire sans oublier d'activer les notifications. On se donne maintenant rendez-vous dès le 1er février pour un nouveau voyage dans le temps. Nous remonterons dans le prochain épisode jusqu'au 15e siècle.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.